Il y avait bien 8 jours que Lali suppliait Madeleine de l'emmener cueillir des noisettes. Ce dimanche, enfin, Madeleine avait cédé. Comme il faisait beau, elle avait fait la toilette des enfants, ayant le matin même acheté pour eux, avec son argent, un petit flacon d'eau de senteur. Elle en avait mis une bonne dose sur leurs cheveux, et le petit, sur sa poitrine, était comme un bouquet. Dans la prairie, comme elle était belle, elle avait cueilli des noisettes. Et puis, elle s'était approchée de l'étang, lentement, derrière Jo, qui musait en trottant. Comme il brillait l'étang! À l'ombre d'un chêne, elle s'assit et cassa les noisettes. Avec son couteau de cérémonie, qu'elle prenait seulement pour les noces et les grands repas, elle cassa les noisettes rousses, guettées par 2 petits becs gourmands. « Suis descendu dans mon jardin, mais ta vie que je vole colin, y cueillir rose et romarin, mais ta vie que je vole, mais ta vie que je vole. » Voilà qu'elle chantait. Pourquoi cette légèreté de cœur, ce couteau de nacre si mignon, si frêle qu'elle le sentait à peine dans sa main, était-ce un cadeau de galant? Non, il lui rappelait de longs repas de viande, mais rien de joli, rien de doux à l'âme. Alors, était-ce parce que la prairie était belle? Était-ce parce que l'étang brillait? Parce que les enfants riaient et qu'ils sentaient bon comme les herbes d'agrément? Eh bien non, non, dans tout cela, il n'y avait pas de raison. Un rossignol vient dans ma main, mais ta vie que je vole colin. Jo voulait chanter aussi. Lali faisait « You, you, ou !» Puis il me dit dans son latin « Mais ta vie que je vole, mais ta vie que je vole !» La douceur était sur Madeleine comme une main posée. Elle sentait trembler en sa poitrine une joie sans cause, une joie vaste et pourtant fragile. À 18 ans, le matin des assemblées de jeunesse, elle était ainsi légère comme un passereau. « Ah, folle que je suis! Pauvre abeille mouillée, hirondelle de la Toussaint !»« Mais ta vie que je vole, mais ta vie que je vole !» Les petits se suspendaient à son cou, criant, poussant, tapant, avec des rires, de grands efforts gauches. Elle se laissa choir, livra sa tête, et tout un moment, elle joua avec eux, étourdie de tendresse.
Madeleine, viens voir. Hé, Madeleine.
Lali, qui se lassait vite du même plaisir, se tenait près du barrage sur le bord de l'étang. Elle avait commencé par lancer des pierres dans l'eau, maintenant, n'en trouvant plus, elle jetait des baies de douce amère.
Madeleine, des poissons.
Madeleine s'approcha avec le petit. L'eau, qui de loin semblait noire, était au contraire d'une transparence admirable. Quand une graine tombait, les poissons sortaient des profondeurs. C'étaient de petits gardons d'une vivacité extrême, et l'on distinguait très bien les yeux jaunes, la bouche ronde, des nageoires roses étendues comme une dentelle. Ils happaient si vite les graines qu'on ne les voyait pas disparaître.
« Ham, ham, encore une, les petits gourmands !»« Lali, ne te penche pas tant, viens Lali !»
Madeleine ramena les enfants sous le chêne. Elle avait peur de l'eau depuis son enfance. Une vieille tante un peu folle lui avait fait tant de contes de fadettes et de laveuses noires qu'elle ressentait toujours devant l'eau dormeuse des étangs une sorte d'attirance mystérieuse et effrayante.
« Il ne faut pas s'approcher, vois-tu? Il y a dans l'eau des bêtes très méchantes qui tirent les petits-enfants par les pieds. « Jouons, Madeleine !» disait Lali sans écouter. « Je serais une marchande, je vendrais des épingles. Jo serait un petit garçon. Tu serais sa maman. Vous seriez dans votre maison. Tu vois, ces petits bois, c'est des épingles. Je frapperai à la porte. Il y a du monde ? Tu dirais, « Bonjour, madame, je voudrais des épingles pour attacher le fichu à mon petit garçon. Entends-tu, Madeleine ? Jo est un petit garçon, tu es sa maman. » « Si tu aimes mieux, ça serait des dragées. Jo dirait, « Maman, je veux des dragées à la marchande. » »« Petite sotte, tu vois bien qu'il ne peut pas dire cela. Écoute-le.
Ma,
bégayait Jo. Il faut lui apprendre, Madeleine. Jojo dit maman. Je veux
ma.
Oups! Tu ne sais pas t'amuser, Jo, dit la sœur. Lali va s'amuser toute seule. Madeleine, subitement rouge, avait pris le petit sous les bras. Elle le tenait en face d'elle, tout près de son visage.
Jo, mon petit Jojo, dit maman. Maman.
Elle levait les yeux suppliants. Sa tendre émotion de la soirée aboutissait à ce vertige étrange, inconnu, qui ressemblait à un vertige d'amour. Elle ne savait plus, elle n'avait pas honte.
« Jo, écoute, maman, maman,
Madeleine !» Ses épaules fléchirent, le sang lui sauta au cœur. Corbier était à 10 pas derrière la haie. Une seconde, les yeux de Madeleine s'élargirent. Une seconde, une grande clarté fut en elle. Puis tout s'éteignit. Corbier, blanc de visage, levait la main comme pour jeter ses paroles.
« Madeleine, c'est péché mortel! Je vous défends cette abomination !»
3 jours durant, ils furent silencieux l'un devant l'autre. À l'heure des repas, Madeleine faisait manger les enfants et mangeait elle-même, debout, près de la cheminée, sans une parole. Corbier parlait à son père ou à ses valets, sans jamais tourner la tête vers sa servante. Contre son habitude, Boiseriot faisait le plaisant et, sous la visière rabattue, ses yeux de loup luisaient de joie maligne. Le second jour, dans la grange, Michel avait répondu d'une manière vague et en pâlissant à une question du père.
« Il n'y a rien, mais après vous, je suis le seul maître chez moi. »
Le maître, oui, celui qui commandait aux valets, qui décidait les labours, les semis, les achats et les ventes, mais non point le maître de ses imaginations. Il ne savait pas en vérité ce qu'il y avait dans son cœur. Était-ce tendresse ou haine, douceur ou colère? À coup sûr, cependant, il y avait de l'orgueil. L'orgueil de ne pas céder au bouillonnement du sang âpre et jeune, l'orgueil aussi de ne pas revenir sur une parole trop dure. Et c'était bien un peu la même chose chez Madeleine. Elle avait pleuré de honte, pleuré aussi de douleur à cause d'une blessure inattendue et brutale et secrète. Ce rêve inavoué qui grandissait et fleurissait en elle comme un buisson blanc caché par de hautes branches et qui venait d'être saccagé, fauché, comme cela, tout d'un coup, c'était véritablement cruel. Vlan, un grand coup de serpe à l'aubépin parfumé, un grand coup de pioche dans le parterre. À propos d'une plaisanterie, car c'était un jeu, vraiment, oui, c'est Lali qui avait commencé. On aurait pu demander, on aurait bien vu, dire des paroles semblables. Parce qu'elle aimait les enfants, elle ne songeait pas pour autant à des malhonnêtetés. Elle les aimait, les enfants, beaucoup, beaucoup, à en perdre la tête. Et elle pouvait bien le faire voir, peut-être. Péché mortel. Sans doute vous croyez des choses, Michel, parce que vous êtes avenant. Mon Dieu, vous n'êtes pas le seul. On était au soir du mercredi, et Madeleine fiévreusement desservait la table. Les hommes étaient allés se coucher, les enfants dormaient.
« Je m'en irai, je ne peux plus rester après ces paroles. J'étais accoutumée, mais il n'y a que les enfants que j'aime. Oui, je les regretterai bien, les mignons, mais pas les autres. J'irai dans une grande ferme, comme l'an passé, je serai plus libre. Ils me font tourner la tête ici. L'un que j'aime, l'autre que j'aime pas, on finit par ne plus savoir ce qu'on fait. » Et du travail tant que le jour est clair, et bien avant et encore après. Personne pour vous mener, et au nid par-dessus le marché. J'aurais dû partir tout de suite. Quand je le vois qui vient s'asseoir ici avec les autres, sans me regarder, ça me boute au cœur. C'est la colère. S'il parlait comme avant, cela serait peut-être passé. Mais non. Eh bien, je m'en vais, Michel Corbier. Vous engagerez une autre, une plus belle que moi, si vous voulez.
Et quelle soit votre femme, cela me sera égal. »
Madeleine avait en main le torchon qui lui servait à frotter l'armoire. Elle le jeta. Puis elle le reprit aussitôt, pensant
« Je m'en irai, mais je ne veux pas que le tort vienne de mon côté. Je mènerai ma besogne jusqu'au bout et il n'y aura rien à redire. Demain, il faut qu'il me cherche Noise. Je me fâcherai et bonsoir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour cela ? Ah, tiens, que je me contente !»
Elle grimpa vivement sur une chaise et décrocha les pistolets. Puis elle coupa un large morceau de papier de verre et frotte et frotte.
« Ah, mes vieilles pétoires, je vais vous faire aussi belles que les portes-cierges de la chapelle. »« Madeleine, péché mortel !»« Oh, vous croyez, parce que cela a servi à tuer des hommes ?»« Madeleine, c'est abominable !»« Ou peut-être des femmes, ou peut-être des drôles, en des temps où les gens étaient pires que des sauvages ?»« Redites-le, corbier, que c'est abominable !»
La fâcherie était inévitable et elle s'en irait sur l'heure. Dès ce soir, il lui fallait rassembler ses hardes afin de pouvoir les empaqueter en quelques minutes. Elle ouvrit l'armoire, plia ses jupons, chercha ses mouchoirs. Les hardes des petits étaient mêlées aux siennes. Malgré sa rancune, cela lui faisait une grosse peine de les en séparer. Elle prit son flacon d'eau de senteur et le plaça tout en haut, au milieu de l'étagère. Elle l'avait acheté pour eux, elle voulait le leur laisser. Mais l'autre, qui viendrait, le prendrait sans doute pour elle.
Non, pas cela, par exemple.
Alors elle sortit les brassières, les bas, les bavoirs du petit, les sarraux de la lie et ses rubans de cheveux. Puis, toutes ces choses étendues sur la table, elle vida son flacon, goutte à goutte, comme elle eût jeté de l'eau bénite.
« Mignon, que cela vous porte bonheur !»
Elle voulut encore faire quelque chose pour eux, mais il était tard. Pour ne pas éveiller l'attention, elle laissa ses sabots, marcha silencieusement par la chambre. Elle s'aperçut que les bas de Jo étaient troués. Elle les raccommoda. La lie grandissait vite, son sarrau du dimanche était court. Elle n'aurait rien pour s'habiller proprement. Elle serait moins belle que les autres petites qui ont une mère. Madeleine avait un tablier d'étoffe ancienne à ramages rouges. Elle le coupa. Avec une adresse qu'elle ne se connaissait pas, elle se servit des morceaux pour allonger le sarrau et en changer la ceinture. Il était près de minuit. Elle travaillait avec une lenteur minutieuse. Le sarrau remis à neuf, elle chercha ce qu'elle pourrait faire encore. Rien. Toutes ces pauvres petites choses étaient en ordre, bien propres, bien nettes. C'était fini. Elle pleurait. Dans 15 jours, en quel état tout cela serait-il? Qui donc maintenant allait s'occuper de Jo? Est-ce qu'on songerait à lui autrement que pour le bourrer de soupe épaisse? Il lui fallait encore son biberon le soir en s'endormant. Deux fois par jour, il prenait un œuf bien frais, bien mou, qu'il fallait avoir la patience de lui faire manger par petites cuillerées.
Mais pauvre, peut-être après tout vous sera-t-elle bonne celle que votre père ira chercher. Vous l'aimerez, vous ne songerez plus à Madeleine. Et quand vous serez grand, vous ne me reconnaîtrez pas.
Elle pleurait en replaçant les hardes dans l'armoire.
Je ne peux pas rester pourtant. Votre père est méchant, et moi je suis méchante. « On est méchant quand on est grand, on ne pardonne rien. On n'est pas plus fin que les gens de l'ancien temps qui se faisaient la guerre. »
Madeleine pleurait en regardant le berceau et le lit clair de forme nouvelle. Elle avait dans une boîte quelques rubans, une bague, une épinglette et un petit collier d'argent. Elle prit le collier et le passa sous les cheveux de la lie. Quant au petit, elle n'avait rien à lui donner. Rien qui convînt à son âge. Et depuis 4 mois qu'elle était aux moulinettes, elle n'avait pas encore songé à lui acheter la moindre chose inutile qui eût été un souvenir. C'est qu'aussi, elle ne pensait pas partir si tôt. Eh bien, au moins, elle le garderait auprès d'elle tant qu'elle pourrait. Déshabillée, elle prit l'enfant dans le berceau et l'emporta dans son lit. Le petit, réveillé à demi, grommelait, irrité d'avoir perdu le bout de biberon qu'il gardait dans sa bouche en s'endormant. Ses deux mains fouillaient la gorge de Madeleine et il poussait avec sa tête, les lèvres ouvertes et quêteuses. Madeleine ne pleurait plus. Elle ne dormait pas encore tout à fait, mais sa pensée s'en allait, lui échappait sans qu'elle pût la retenir. L'enfant blotti avait fini par trouver un de ses seins et, dans son rêve commençant, elle sentait la chaleur de deux petites lèvres humides qui, par moments, se resserraient sur sa chair.
« Ding, ding, ding !»
D'une voix claire comme un bruit d'eau, la vieille horloge au cœur de la maison annonce 3 heures. Madeleine se jette hors du lit. Pieds nus, avant même de se vêtir, elle court à la cheminée. Puis, sur les pistolets brillants, elle passe un chiffon gras, vite, vite, comme une coupable. Peine perdue. À l'heure de la soupe, tout le monde s'aperçut de la mauvaise besogne. Michel ne dit rien, mais son père eut un moment de colère.
« Madeleine, je t'avais défendu !»
Madeleine s'excusa, très rouge, prétextant un oubli. Et, devant tout le monde, humblement, elle se laissa gronder comme une petite fille étourdie. Comme à l'habitude, les corbiers et les darus du gros châtaignier avaient réuni leur monde et battaient le même jour. Cette année, la campagne de battage s'achevait chez eux. À cause de cette date tardive, l'entrepreneur leur avait consenti un marché doux, mais ils n'y gagneraient point à cause des ripailles inévitables. On était au samedi, jour maigre pour les dissidents, gras pour les catholiques. Chez les corbiers, on avait dressé 2 tables, crainte de dispute entre gaz échauffé. À la soupe du matin, cela avait très bien marché. Les corbiers avaient pour leur part 35 hommes de tout âge et de religions différentes. Depuis plus d'un mois que le battage durait dans le pays, les gens étaient habitués à se rencontrer et à travailler ensemble, et les querelles étaient rares. Cuirassier était venu pour son patron, un rivrard de la Combe. Durant toute cette campagne, il n'avait pas bu. Madeleine, qui craignait pour cette dernière journée, l'avait arrêté dans le corridor de la maison.
« Tu sais, pas de bêtises ici, ça me ferait chagrin !»
Il avait répondu.
« J'engraine, je n'ai pas envie de passer dans le batteur. »
Comme ils étaient seuls et comme il aimait tendrement cette sœur aînée, il n'avait pas été gêné pour ajouter.
« Et puis, de te voir, ça me fait une raison, ma grande. Si tu veux, à midi, je me placerai à côté de Samuel le salutiste et tu mettras 1 litre d'eau devant nous. »
Les tables étaient dressées dans la grange à gauche des bâtiments. Madeleine avait sa cuisine libre. Elle avait pris une femme à la journée, une vieille dissidente qui suivait la machine d'une ferme à l'autre pour laver la vaisselle et porter à boire dans l'air vers le soir quand les gars devenaient trop libres avec les jeunes. Étaient venues aussi pour aider Madeleine ses 2 cadettes, Tiennette et Fridoline, celle-ci plus rousse que Madeleine, celle-là de teint ferme et jeune et fraîche et rieuse comme une pastoure de conte. Madeleine veillait aux enfants et dirigeait son monde. Fridoline l'aidait à préparer la table maigre où les plats étaient nombreux. Fridoline était une cuisinière attentive et les gars la laissaient travailler en paix parce qu'elle n'était pas portée pour les plaisanteries, sans doute aussi parce qu'elle n'était pas très belle. Tiennette et la vieille étaient chargées de la table grasse pour laquelle il fallait beaucoup moins de soins. 3 ou 4 grandes platées de viande cuite un peu au hasard, comme cela, avec de l'eau, du beurre, du sel, sans goûter, bien sûr. La vieille se penchait sur les casseroles, avec un air de sorcière, jetant ensemble le gros sel et les malédictions. Tiennette avait du temps de reste. La cuisine l'inquiétait beaucoup moins que les agaceries des gars. Ils étaient 6 porteurs de sacs, pas tous bien jolis, mais tous aussi jeunes qu'elle, 6 garçons de 18 ans qui, à la file, passait dans le corridor et montait au grenier. Gédéon, qui en était, se donnait de l'importance parce qu'il était le valet de l'endroit. Il indiquait aux autres la place où ils devaient vider leurs sacs et il venait dans la cuisine pour dire « Le dattel rond,
mais il y a des grains faillis.
C'est bien fâcheux, disait Madeleine, attentive à ce bruit du froment pleuvant là-haut dans le grenier et qui serait la richesse de la maison. Quelquefois, le garçon galopait dans l'escalier et tout haletant,
« On n'en peut plus! Tiennette, Tiennette, viens m'aider !»«
Ch'tiga !» disait la petite, « si tu salis ma collerette, je te baillerai ma main sur les oreilles !»
Mais tout émoustillée, elle se tenait dans le corridor à son passage.
« Tiennette, verse-moi à boire. Tiennette, la cuisine sent le brûler.
C'est bien bon pour toi.
À quelle table mangeras-tu, mauvais protestant ?»«
Oh, moi, à la table où tu viendras apporter la soupière. »«
À la table des mange-viandes, protestant du diable. »
« Tiennette, au lendemain du carnaval, je mangerai bien tes joues. »
Il disait des plaisanteries simples et un peu joviales dont elle faisait semblant de se fâcher. Et il embrassait aisément quand elle était seule devant lui. Les cinq autres n'étaient guère moins turbulents et ils s'attaquaient eux aussi à Tiennette, mais elle les rabrouait à grands cris et comme ils étaient tout jeunes, ils n'osaient pas avancer leurs mains noires. D'ailleurs, ils ne chômaient pas et une minute de flânerie leur valait 5 minutes de course. Il n'y avait pas de temps à perdre. La vanneuse avalait ses 6 000 gerbes à avaler dans la journée. Et bien qu'elle fût une grosse mangeuse, il ne fallait point s'arrêter si on voulait en finir avant la nuit. Les engreneurs, debout sur les planchettes accrochées à ses flancs, lui poussaient la paille de loin par gestes prudents. Parfois, il lui jetait des gerbes entières qu'elle happait avec un aboiement joyeux. Une seconde alors, elle faisait entendre, au fond de sa longue gueule noire, un râle de satisfaction inouïe. Et puis, tout de suite, elle recommençait à gronder, à jurer, à rugir. Ils étaient 6 hommes pour la servir, 2 qui coupaient les liens et préparaient les gerbes, et 4 engreneurs qui se relayaient d'instant en instant. Tout autour, ils étaient 50. Les plus jeunes grimpaient au tas et faisaient crouler les gerbes. Les plus galants étaient au sac. Les vieux faisaient les besognes lentes et minutieuses. Ils avaient des râteaux, triaient les balles et les épis coupés, ou bien ils étaient au poste que les jeunes fuyaient à cause de la poussière. Pour monter la paille, il y avait 7 ou 8 gaillards glorieux de leur force. Les secoueurs leur préparaient d'énormes fourchets. Quand ils avaient piqué là-dedans et redressé leur outil, ils disparaissaient complètement et la paille avait l'air de monter toute seule, lentement, le long des hautes échelles. L'un d'eux, un grand brun qui avait une voix très belle, chantait sans s'interrompre une chanson interminable aux couplets presque pareils. Les autres s'essayaient à chanter avec lui, mais leur voix ne pouvait pas suivre la sienne. Plus volontiers, ils ululaient à toute gorge en haut des échelles, ou bien ils criaient « À boire ! À boire !» Alors Tiennette venait et leur versait du vin. Et tous étaient contents de la voir en leur vue, même ceux dont les amitiés étaient fixées. C'était la journée de boire. Les vieux secoueurs de paille eux-mêmes faisaient bel accueil à la bouteille et, le verre en main, ils disaient des rigourdaines. La petite allait de l'un à l'autre, se glissait entre les fourches, enjambait la paille, lisse et gracieuse comme une chevrette blanche. Près de la vanneuse, elle levait sa bouteille.
« Hé, les engreneurs !»
Mais eux n'entendaient pas, tout entiers à leur besogne acharnée, ou bien ils secouaient rapidement la tête.
« Non, non, pas maintenant !»
Au deuxième passage de Tiennette, Boiseriot et Cuirassier, dont c'était le tour de repos, appelèrent la petite, mais Cuirassier ne prit qu'un verre d'eau et l'autre s'étonna.
« De l'eau ? Tu as peur d'un verre de vin aujourd'hui, un homme comme toi ?»«
C'est que je me connais, voyez-vous. Au deuxième verre, la folie commence déjà à me monter à la tête. Après, par exemple, je puis boire tant que je veux. »
« Et puis, tenez !» ajouta Cuirassier en montrant les autres. « Je crois qu'il y en aura assez d'échauffés sans moi. »
Quand les gens des Corbiers furent tous dans la grange pour le repas de midi, les plaisanteries devinrent tout de suite bruyantes et grosses. Le vin épais coulait vite. Tiennette ne faisait que courir vers la maison avec des litres vides.
Au bout de la table grasse, Gédéon l'appelait 10 fois pour une et elle entendait bien toujours sa voix à travers les autres. « Tiennette, écoute par ici !» Une fois, il se pencha et se mit à lui conter quelque chose à l'oreille. Alors Samuel, celui qu'on appelait le salutiste, un homme d'une 40aine d'années, qui était assis en face, à l'autre table, toucha le bras de Tiennette et tout bas, d'une voix polie, « Mademoiselle, ayez donc la bonté de remplir ce pichet d'eau claire. » Agacée, elle répéta très haut. « Remplir ce pichet d'eau claire ! En voilà un d'une autre espèce ! Il lui faut de l'eau à celui-là !» Toute la tablée éclata de rire et Gédéon cria. « C'est pas un homme, c'est un canard !» Samuel devint rouge. « Vous êtes un impoli, mon garçon. Je n'insulte personne, moi. Je suis ma croyance. D'abord, si vous aviez de l'instruction, vous sauriez que le vin... » Sans souci du lieu, il était retourné sur son banc et, chétif, avec de maigres gestes, il commençait un discours, un des prêches entendus aux réunions de la Société religieuse de Tempérance. Les autres, qui avaient d'abord fait silence, intrigués par ce jargon bizarre, le tournèrent en dérision. « Encore un drôle de garçon, ce Samuel. Voilà-t-il pas maintenant qu'il était péché de boire du vin ?» Gédéon criait « C'est un canard !» heureux d'avoir trouvé cette plaisanterie. Et, très excité, quand Tiennette apporta le pichet, il lui prit des mains et versant lui-même. « Tiens, mon canet, barbote !» Sans marquer l'insolence, l'autre leva son verre. « Je bois la liqueur de rédemption !» Le reste de sa phrase se perdit à travers les éclats de rire. Gédéon tenait le pichet. « Ne t'en prive pas, vieux, si cela te fait du bien !» Pourtant, à la table des dissidents, quelqu'un blâma le jeune homme. De loin, Corbier lui fit signe de se taire. Samuel parlait toujours. Dans le bruit, on entendait des lambeaux de phrases, des bouts de versets mal assortis. Il y en a qui pleureront. Ils ont des yeux et ils ne voient point. En vérité, je vous le dis. À la table grasse, un protestant raisonnait. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui salit l'âme. Vous le prétendez, répondit Boisoriot, mais tout le monde n'est pas de votre bord. Non, continua un autre catholique. On est chrétien ou on ne l'est pas. Nous avons des prêtres pour nous mener, il n'y a qu'à suivre. Il y a des gens qui vivent comme des bêtes. » Le protestant haussa les épaules et se coupa un morceau de lard. Lui ne croyait plus à grand-chose et ses discussions lui paraissaient fort sottes. Mais de la table des dissidents, la riposte vint tout droit. « C'est ça, il n'y a qu'à suivre le berger, tant pis si l'on va sur un mauvais package. Qui c'est qui vit comme des bêtes ?» Tout de suite, ils se regardèrent, avec des yeux de haine, les vieux comme les jeunes. Le repas s'achevait dans le tumulte. Le dissident qui avait parlé criait à Boisoriot et à son camarade. « Sortons-nous !» Les femmes étaient accourues et se tenaient, tremblantes, à l'entrée de la grange. Heureusement, personne n'était ivre et l'on n'échangeait encore que des paroles. Cuirassier était un des plus calmes. Il disait « Le salutiste a raison, il tient dur pour son idée. Chacun est libre. S'il veut boire de l'eau, lui, le vin est bon et mauvais. Il chauffe un homme, puis il le brûle. Il dit qu'il ne veut pas s'empoisonner, je suis de son goût. » Parlant de la sorte, il avalait sans s'en apercevoir de nombreuses rasades et il s'énervait peu à peu. Madeleine avait les yeux sur lui, mais elle n'osait pas l'avertir devant tous ces gens. Elle avait aussi les yeux sur Michel, qu'elle savait entêté et très orgueilleux, très âpre dans ses discussions. Il ne disait rien parce qu'on était chez lui, mais il était pâle et ses mâchoires se serraient. « Ils s'abattront, oui !» disait la vieille. Et comme elle avait vu d'autres scènes de ce genre, elle s'avançait entre les deux tables, criant à l'un et à l'autre. « Tais-toi, tu es fou ! Mange donc, et puis bois !» À son bout de table, les yeux flambants, Samuel prêchait toujours. Il s'était levé pour mieux se faire entendre, et y jeter l'anathème à toute volée, au hasard, mêlant tout, parlant de l'alcool et du sang de Christ, de Babylone et des bouilleurs de cru. La vieille lui rabattait les mains.
« Tais-toi ! Tu es plus fou que les autres, entends-tu ?»
Mais rien ne l'arrêtait, et Gédéon, qui d'abord avait ri aux larmes au garçon qui se moquait de tout cela, Gédéon se fâchait et menaçait le prêcheur de lui fermer le bec d'un coup de poing. Ne venait-il pas de le montrer du doigt, lui et aussi Tiennette, en parlant de la mauvaise tenue de la jeunesse ? Cependant, le mécanicien, voyant la tournure que prenaient les choses, était sorti précipitamment. Un coup de sifflet impérieux troua le vacarme. Ils sortirent tous, subitement calmés, et suivirent la machine au gros châtaignier. Dans la petite aire des Darus, à l'abri des bâtiments, la chaleur devint vite intolérable. On ne sentait aucun souffle de vent. La poussière très épaisse dormait sur les hommes. Samuel, qui recevait le grain derrière la vanneuse, avait disparu, enveloppé dans un nuage roux. Un des donneurs de gerbes, un grand garçon mince, avait fléchi. Il avait fallu l'emmener à l'ombre et les engraineurs au repos lui jetaient de l'eau sur la figure. Le travail était devenu lent et silencieux. Seul, cet enragé de porte-paille chantait encore. Alors, Daru fit le tour de l'air avec une brassée de bouteilles, criant « Allons, les gars, au muscadet !» Derrière lui, les femmes vinrent, chargées elles aussi. Daru disait « Goûtez ça, c'est pas du vin de marchand, c'est mon beau-frère de Vendée qui me le fournit. Seulement, méfiez-vous, il est traître. » Les hommes, abrutis de chaleur, avalaient comme de la piquette ce petit vin si gai. Daru, pris d'inquiétude, appela ses femmes. « Assez, allez-vous-en, il ne finirait pas le travail. » Les femmes s'en allèrent, remportant leurs bouteilles à demi vidées. Elles passèrent dans la grange où cuirassiers et boiseriaux venaient de s'étendre sur la terre fraîche, haletant la figure noire. Boiseriaux goûta au muscadet. « Tiens, fit-il, ça coule, ça !» Les femmes leur laissèrent un litre non entamé. Cuirassier, ayant bu, fit claquer sa langue. « Ouais, ça remet, nom de là !» Il avait la tête chaude et il riait d'aise, le litre en main, tout de suite reposé. « Nom de là, Boiseriaux, Samuel est un triste menteur. Le vin vaut mieux que l'eau. J'ai bonne envie de finir la bouteille. » L'autre le regardait de côté avec ses yeux ronds. « Finir la bouteille ? Tu n'es pas de force, ça t'assommerait !» Cuirassier n'eut pas d'hésitation. Devant ce catholique, il ne voulait pas en avoir le démenti. « Allons donc » fit-il dédaigneusement. « Je ne suis plus un drôle, j'en boirai 10 litres comme ça, tenez !» Il s'étendit complètement sur le dos et, de haut, lentement, se vida la bouteille dans la bouche. « Ouf, c'est passé ! Avez-vous vu ?» Boiseriaux était debout. On les appelait déjà à la vanneuse. Ils reprirent leur poste. Autour d'eux, le bruit avait recommencé. Les porte-pailles ululaient avec des accents farouches. D'autres s'interpellaient d'une voix âpre. Le trieur d'épis et le leveur de balles, deux hommes d'âge, se disputaient. Cela avait commencé à propos de religion, et maintenant ils se reprochaient des choses anciennes. Ils s'injuriaient avec violence et ils se seraient empoignés s'ils en avaient eu le temps. Sur la table à engrenée, cuirassiers brassaient les gerbes avec vivacité. L'ivresse commençait à lui brouiller les idées. Il avait jeté son chapeau. Le soleil lui tapait droit sur la tête et achevait de l'étourdir. Hap ! La vanneuse se tut, étranglée. Il venait de jeter 2 gerbes à la fois, 2 gerbes mal démêlées. Des moqueries fusèrent. Les dresseurs de paillets crièrent « Ouh, ouh, les engreneurs !» Cuirassier, occupé à dégager le batteur, se redressa en jurant, prêt à la querelle. Ce que voyant, les autres redoublèrent, bramant entre leurs mains jointes « C'est le grand, ouh, ouh !» Ils étaient là-haut, 4 catholiques qui l'engeignaient, disant « Cuirassier, tu perds ta ceinture !» Cuirassier, tu perds ta ceinture. Cuirassier, on t'appelle à la cuisine. Tu conviendrais à moucher les drôles.
Boiseriot riait en archant les dernières poignées de paille. Enfin, le batteur reprit à tourner. Cuirassier était blanc de colère. Il venait d'entendre dire près de la vanneuse « Le petit engraine mieux !» Et, dans son ivresse commençante, ces paroles prononcées à voix posée lui avaient été encore plus cuisantes que les moqueries des dresseurs de paillets. « Ce n'est pas mon idée. Le grand a de l'avantage et pousse plus de la paille. » Autour de la vanneuse, maintenant, on discutait leur travail. Et, de proche en proche, la discussion animait tout le monde. La vieille querelle renaissait, les catholiques tenant pour Boiseriot et les dissidents pour Cuirassier. Eux, entendant cela, ne se regardaient plus. Penchés sur la table, ils faisaient une besogne terrible. Boiseriot était le plus adroit, il jetait ses mains en avant avec la promptitude d'un chat. Chacun de ses gestes portait, poussait la paille juste assez pour qu'elle fût happée par la machine. Et il ne suait même pas. Il n'avait pas l'air de se douter de la chaleur avec son chapeau enfoncé sur ses oreilles. Cuirassier travaillait comme il se serait battu. Une rage le tenait, la rage des soirs d'ivresse. Le sang lui avait sauté à la tête, chassant toutes ses idées ordinaires qui étaient douces et sensées. Les mâchoires serrées, les yeux larges, il tremblait d'une colère folle, colère contre Boiseriot, contre les catholiques, contre la vanneuse, contre la paille, contre tout. Lançant le torse, il balayait furieusement la table.
« C'est le petit qui engraine le mieux. Bon Dieu, je vais leur faire voir. Mauvaise engeance !»
Il cria « Amenez, amenez de la paille !» Les coupeurs de liens lui poussèrent des gerbes et lui, de toute sa force, lança ses grands bras.
« Ah !»
Il y eut un craquement d'eau brisée. Le mécanicien avait bondi au levier de mise en marche et s'y cramponnait les yeux fous. Et tous, ceux qui chantaient et ceux qui se disputaient, ceux du palier, ceux des échelles, ceux du tas de gerbes, tous étaient immobilisés, les mains hautes, un cri de terreur arrêté dans la gorge. Sur la table engrenée, Cuirassier gisait, la face en avant. La vanneuse venait de lui manger un bras. On l'avait transporté à l'hôpital et l'on avait coupé tout ce que la vanneuse avait laissé à son épaule droite. Quand il était revenu à lui, il avait dit au médecin « Vous auriez mieux fait de m'achever si vous croyez que je vais vivre comme ça !» Et trois jours durant, il leur avait mené une belle danse, criant sans désemparer et d'une voix farouche « Je me ferai périr !» Mais ses mauvaises idées s'en étaient allées avec la fièvre. Maintenant, il était un malade très patient et très doux, qui ne guérissait pas vite, par exemple, à cause de sa grande tristesse. Presque tout son sang était parti par l'affreuse blessure. Il demeurait aussi blanc que ses draps, et quand il levait la tête, ses yeux bleus chaviraient de faiblesse dans les orbites. Sa mère était venue le voir, de même que sa sœur Fridoline et Rivard de la Combe, son patron. Mais ses premières visites l'avaient exténué, et les médecins avaient consigné tout le monde à la porte. Et une infirmière la conduisit par de longs couloirs d'une nudité blanche qui glaçait le cœur. Madeleine assourdissait son pas derrière l'infirmière silencieuse et elle murmurait « C'est la maison de la mort, pauvre grand, comme je te voudrais hors d'ici !» Quand l'infirmière l'eut introduite dans la chambre du malade, elle se sentit défaillante. Lui, vivement, avait tiré le drap pour cacher son épaule mutilée et, dans son visage sans couleur, ses yeux s'efforçaient de sourire. Elle l'embrassa et ils se regardèrent une minute en silence. Puis, tout de même, pour ne pas laisser toute puissance à son émotion, elle se raidit et parla.
« Je te trouve bonne mine, malgré tout. Tu vas être bientôt guéri, cuirassier. »
Il répondit bien doucement. « Ma sœur, appelle-moi Jean. J'ai porté depuis ma petite jeunesse un sobriquet d'orgueil parce que j'étais fort. Mais maintenant, ma force est partie et ne reviendra jamais. Je ne me plains pas, c'est ma faute. »
Et non, vois-tu, ce n'est pas ta faute. Ce qui doit arriver arrive. C'est longtemps à l'avance que les choses sont dites.
Oui, tu es bonne, toi. Tu es la meilleure. Si tu étais ici, je guérirais plus vite.
De sa main gauche, qui était devenue toute maigre et blanche, il avait pris une de ses mains à elle et il jouait avec ses doigts. Un peu de sang vint à ses joues. Il eut l'air de chercher ses paroles pour quelque demande très osée.
« Madeleine, je veux te dire quelque chose. Je t'attendais en grande impatience et je suis content que tu sois venue précisément aujourd'hui. J'ai des idées que je ne veux pas dire à une autre que toi. Madeleine, à Chantepie, il y a une fille que depuis longtemps j'aime d'amour.
Violette, la tailleuse? Croyais-tu donc que je ne le savais pas?
Oui, Violette, une grande avec des yeux tout à l'envers des tiens.
Madeleine fit mine de rire.
Une belle fille, allons. Pas la peine de me dire comment elle est, je la connais. Je l'ai vue, il y aura demain tout juste 2 ans à l'assemblée de Chantepie.
Il redevint triste. Il y aura 2 ans demain, comme tu dis, que je lui ai parlé pour la première fois. Je devais y aller encore cette année à l'assemblée de Chantepie, et elle devait m'attendre. Elle m'aime beaucoup et se fait à présent du chagrin à cause de moi. Madeleine, je veux qu'elle sache combien j'ai pensé à elle sur ce lit de misère.
C'est que je ne pourrai pas y aller, moi, à Chantepie, à cause des petits qui sont à la maison.
J'y ai pensé. J'ai demandé du papier à l'infirmière, bien poliment, et elle m'en a donné. Tiens.
Il chercha sous son traversin et tendit à Madeleine un crayon avec une enveloppe froissée.
Je t'en prie, marque-lui qu'elle ne se chagrine pas, que de la savoir tranquille et de bel espoir me sera un baume.
Madeleine avait pris le crayon, mais ses yeux se détournaient pour que son frère ne vît point la pitié qui venait d'y monter. Le malheureux, comme il aimait cette fille catholique que Madeleine et sa mère tenaient en méfiance. Elle ne devait point se chagriner si fort. Elle ne s'était pas encore informée de lui et la nouvelle n'était point venue qu'elle fût émue par le malheur de son promis. Sans doute n'était-ce pas assez de cette blessure? Sans doute n'était-ce pas assez de la misère contre laquelle il allait maintenant toute sa vie se débattre? Sans doute lui faudrait-il porter un cœur dolent, comme il était difficile de vivre.
Mon pauvre grand, tu ne devrais pas te fatiguer à songer de la sorte. Dans quelques jours, quand tu seras plus fort?
Mais lui, avec des yeux suppliants.
Non, Madeleine, tout de suite. Je t'en prie. Écris ici, tiens, sur ce plateau, que je vois ta main courir. »
Elle installa sa feuille comme il le désirait et commença, lui soumettant chaque phrase.
« Ma chère Violette, je ne t'écris pas de ma main à cause du malheur qui m'est arrivé. Je te fais marquer ces mots par une personne sérieuse avec qui l'on n'a pas à craindre les bavardages. Violette, j'ai beaucoup souffert, mais je t'ai toujours eu devant les yeux, même au plus fort du mal. Dis-lui que je compte bien me marier avec elle bientôt. L'assurance me fera une rente, le médecin me l'a dit, et dès que je serai guérie, j'aurai une place du gouvernement.
Ah, tant mieux, dit Madeleine, j'en suis bien contente. Alors je mets, je pense que nous pourrons facilement monter notre ménage avec la paye que... Non, non, pas cela, je ne veux pas que tu le dises. Mais seulement que mes idées n'ont pas changé.
Elle écrivit donc. Mes intentions envers toi sont les mêmes, car mon cœur ne changera jamais. Si tu le veux, nous nous marierons vitement. Et tout de même, elle ajouta.
Dès que je serai en force de gagner ma vie et la tienne, ce qui sera bientôt, tu peux l'espérer.
Puis ils terminèrent ainsi.
Ma chère Violette, je ne veux pas que tu sois triste à cause de moi. C'est demain l'assemblée de Chantepie, je te prie de sortir comme à l'habitude. Si je savais que tu ris avec les autres filles de ton âge, je serais bien content. Ma chère Violette, tu peux m'écrire au nom de Jean Clarendeau à l'hôpital. Je t'embrasse comme je t'ai embrassé la première fois, il y aura 2 ans demain, le jour de l'assemblée de chez toi. et c'est moi qui signe. »
Il prit le crayon et, péniblement, s'arrêtant à chaque lettre, il traça son nom. Puis sa tête retomba sur l'oreiller, plus pâle. Madeleine écrivait l'adresse. « À Mademoiselle, Mademoiselle Violette Ouvrard, couturière à Chantepie. »
Mais personnel, pour que le facteur ne la donne pas à une autre qu'elle.
C'est cela, merci. Maintenant, n'oublie pas de la mettre à la boîte tout de suite. Je suis bien content que tu sois venu aujourd'hui.
L'infirmière avait entrebâillé la porte.
On parle trop ici, c'est assez pour aujourd'hui.
Vous avez raison, dit Madeleine, je m'en vais, je reviendrai.
Comme elle sortait, il cria encore dans un soulèvement de tout son être.
« N'oublie pas, surtout, dès que tu seras sortie !»
Madeleine, tout de suite, jeta la pauvre lettre à la boîte et elle arriva bien à Chantepie le dimanche matin, comme il le fallait. Violette cousait dans la maison de sa mère. Elle se préparait un corsage pour l'assembler et le modèle était devant elle sur un catalogue venu de Paris. La mode des villes, cette année, était de montrer ses épaules et surtout sa gorge. Et Violette essayait de la faire suivre au bourg de Chantepie, où il y avait des filles très coquettes. Elle avait choisi pour elle-même un modèle audacieux, échancré en pointe jusqu'au sein. Elle hésitait cependant à tailler aussi hardiment dans l'étoffe. Le facteur ouvrit la porte.
« Mademoiselle Violette, personnel !» « C'est une lettre de galant, ma jolie fille !»
Elle ne répondit rien, se contenta de regarder cette adresse bizarre, écrite au crayon d'une main inconnue. Le facteur partit, elle déchira l'enveloppe. Aux premières lignes, dans ses yeux jeunes, une pitié passa pour ce garçon si beau dont l'amour l'avait flatté et qui, maintenant, était abîmé pour toujours. Mais ce fut très bref. Sous la lèvre rouge, une dent brilla, aiguë.
Si elle sortirait, si elle irait à l'assemblée avec les autres? Non, vraiment, il était trop bête. Cela devenait risible.
Elle secoua sa tête brune, hérissée de papillotes, et murmura.
Un de perdu, il m'en faut trouver deux autres.
Et comme à 20 ans elle avait déjà l'expérience des hommes, comme elle connaissait l'appât dont ils sont friands, elle se pencha sur le corsage faufilé et, en deux coups de ciseau, elle ouvrit un V plus grand que celui du catalogue. Aux moulinettes, le malheur arrivé le jour de la batterie avait jeté de la tristesse sur tout le monde. Lorsque Madeleine donnait des nouvelles aux gens de l'endroit et aux voisins venus pour savoir, une grande commisération se devinait aux paroles échangées. Boiseriot lui-même pâlissait à ces moments-là, et lui qui avait vu ne consentait pas volontiers à raconter l'accident. Mais il était trop mauvais pour que son cœur fût net. Sa pitié n'était qu'un peloton de fil accroché à toutes les pointes d'un buisson d'épines. Peut-être éprouvait-il un vague remords, ou plutôt la crainte d'avoir commis un péché trop grave qu'aucune pénitence n'effacerait. En tous les cas, cela se mêlait à une vilaine joie de vengeance satisfaite. Le médecin entretenait toujours l'espoir du blessé, touchant la prime de la compagnie d'assurance et la place qu'on lui donnerait après sa guérison. Madeleine croyait ses promesses prêtes à se réaliser et l'annonçait bonnement. Mais Michel redressait ses dires avec prudence pour ne pas l'attrister avant l'heure.
« Il a bu tout un litre avant de monter sur la machine. C'est connu et on partira de ça. Quant à la place du gouvernement... »
Il faisait un geste vague, ne voulant pas parler devant Boiseriot, qui, ami des curés, ne votait pas avec lui dans les élections. Madeleine l'écoutait, surprise de cette douceur qui ne lui était pas habituelle. Elle sentait confusément qu'il parlait de la sorte pour ne pas heurter son chagrin, et elle lui en savait gré. Elle lui savait gré aussi de sa complaisance, de son empressement à lui faciliter ses voyages à la ville. Il lui avait dit «
« Toutes les fois que votre désir sera d'aller voir votre frère, allez-y et ne prenez aucun soin du reste. »
Michel n'était plus le jeune patron fantasque aux yeux inquiets et durs. Sa véhémence s'était tout à fait assourdie et il parlait comme un bon camarade d'esprit sensé et d'humeur égale.
Madeleine l'aimait mieux de la sorte. Et malgré les paroles dites qu'elle n'oubliait pas, un espoir calme vivait encore en elle. C'était sur son cœur comme un vent tiède et lent après une bourrasque saccageuse. Plus tard, qui pouvait savoir, cette chose à laquelle il ne fallait pas penser pour le moment viendrait peut-être petit à petit. Elle se disait « J'ai failli m'en aller cependant, j'ai failli faire la mauvaise tête. Si j'étais partie de la sorte, tout de suite, sans réflexion, qu'est-ce que je serais devenue ? Qu'est-ce que je ferais sans Lali et sans Jo ? Bien sûr, je ne m'accoutumerai pas loin d'eux. » Pour ceci, en effet, sa tendresse devenait d'une vigilance merveilleuse. Elle aimait sa mère, ses sœurs, Michel. Elle était toute bouleversée par le malheur de son frère. Et d'autre part, il y avait des gens qu'elle détestait ou qu'elle tenait en défiance. Bien des images douces ou tristes lui venaient dans l'idée, mais elles passaient toutes, se suivant l'une l'autre comme des voyageurs dans une auberge. Pour Lali et pour Jo, la table était toujours servie. Ils avaient la place capitonnée et douillette, la place de choix bourrée de fine laine, et ils n'en sortaient point. Elle-même s'en étonnait. « Chétif, vous me donnez bien de la peine, et pourtant vous êtes roi !» Qu'elle fût à la maison avec eux, ou qu'elle fût au lavoir, ou qu'elle fût à la chapelle, toujours son esprit était, pour eux, en travail de nouveauté. « Je mettrai à Lali un ruban bleu. Elle est blanche, elle grandit trop. Je lui ferai de l'eau rouillée pour lui donner de la force. Jo est content quand il me tape sur la tête. Je puis jouer avec lui un quart d'heure tous les matins. Je n'ai qu'à me lever plus tôt. » Elle les voulait aussi heureux que s'ils avaient eu leur mère. Sa tendresse la rendait adroite et inventive. Elle, qui ne savait tricoter qu'aux broches, avait appris un point de crochet et leur avait fait à chacun pour l'hiver un joli manteau de laine bleue. Le dimanche, elle habillait la poupée de Lali et faisait aux petits des fouets d'écorce tressée ou des chaises de jonc. Et puis, à Lali, elle apprenait les prières et le nom des jours et le compte des doigts. La fillette ne la quittait pas plus que son ombre. Quant à Jo, il faisait aussi ce qu'il pouvait pour la suivre. Elle le semait par la cour ou dans le jardin, mais il la rattrapait à la maison et sautait à ses jupes en criant pour lui faire peur. Il s'était mis un peu tard à parler. Il voulait tout dire à la fois et s'embarrassait aux mots difficiles, avec de grands éclats de rire ou des trépignements de colère selon le cas. Il disait « Papa » et « Lali », mais Madeleine était trop long pour lui et il n'essayait pas. Tout de même, un jour, il se mit à crier « Naine ! Naine ! Naine !» Madeleine le souleva jusqu'à son visage en un élan de joie. Et puis, tout de suite, une idée vint, cruelle, chassant le sang de son cœur. Naine, c'était bien l'abréviation de son nom, mais c'était aussi l'abréviation d'un autre nom qu'elle n'avait pas le droit de prendre. À Chantepie, comme à Saint-Ambroise, comme dans les autres pays, on disait « naine » pour « marraine ». C'était un mot très courant, employé par les grandes personnes comme par les enfants. Sa naine, à ce petit, c'était Georgette, cette belle sœur de Michel dont on ne parlait pas dans la maison, celle dont Madeleine avait pris la place. « Naine ! Naine !» Ce nom remuait Madeleine comme l'autre nom qui était trop beau et défendu. Elle éprouvait à l'entendre le même frisson de joie coupable et elle serrait l'enfant sur sa poitrine avec emportement. « Je ne sais pas, mon Jo, si c'est bien honnête de te laisser dire. » Le soir même, elle parla au vieux Corbier, n'osant s'adresser à Michel. « J'ai une chose sur le cœur. C'est à cause du petit. Il m'appelle Naine, ce mignon. Je ne sais pas si cela vous conviendra, ni si cela conviendra à son père. Si ce n'était pas à votre gré, je pourrais peut-être bien lui faire dire mon nom d'une autre manière. » Dans l'ombre où elle parlait, le vieux ne voyait pas son visage anxieux et ses yeux pleins de larmes. Mais il sentait le tremblement de sa voix et il répondait charitablement. « Tu t'émeus pour peu de choses, ma pauvre fille. Qu'importe que tu sois naine ou madeleine. Si tu es bonne pour lui, c'est l'essentiel. Et il te reconnaîtra plus tard comme ayant tenu la place de celle qui manque.
Cela, c'est mon grand désir, et je ne demande pas autre chose, dit-elle en se sauvant.
À partir de ce moment, elle fut naine pour Jo et aussi pour Lali. Tout au long des jours, ce nom revenait, et par lui, une douceur flottait par la maison. Aux lèvres gazouilleuses, il prenait la fragilité caressante d'un cri d'oiseau. Il était pour la joie et il était pour la peine. Il était le recours suprême, l'appel au protecteur infiniment fort et infiniment bon. Michel n'avait fait aucune remontrance et il lui arrivait, à lui aussi, de dire, quand Lali l'importunait de ses questions.
« Je n'ai pas le temps, demande à Naine. »
À cause de cela, Madeleine lui pardonnait tout à fait ses duretés passées. Elle se sentait regardée autrement qu'une servante, elle, l'humble fille habituée à louer ses bras ici ou là, au hasard du besoin, chez les remueurs de terre. Elle était devenue, par la grâce des enfants, l'âme active de la maison, celle qui veille et qui rassemble. Michel ne songeait plus à protester. Si l'image de Marguerite était toujours en lui, vivante et non vaincue, une autre y marquait aussi sa trace, chaque jour un peu plus. Et il se sentait pris lentement, avec une autorité douce et sûre. Le temps d'hiver était venu, avec ses longues veillées faiblement occupées. Boiseriot se couchait tôt et Gédéon courait les réunions de jeunesse dans les villages des alentours. Le père Corbier s'endormant dans son fauteuil, aussitôt la soupe mangée, Michel restait seul à veiller près de sa servante. Mais son bouillonnement de force s'était apaisé et les mauvaises chimères ne l'assiégeaient plus. C'était avec calme qu'il regardait Madeleine, assise à coudre sous la lampe, la nuque blonde en plein dans la lumière. Parfois, elle filait, après avoir baissé la lampe par économie. Il ne parlait guère. Seul ronflait le fuseau agile. De temps en temps, Madeleine se levait et s'approchait du berceau sur la pointe des pieds. Et puis, tout de suite, le fuseau recommençait sa danse. Vrut, vrut. Michel, attendri, remuait des idées lentes.
Celle-ci file. Les femmes d'aujourd'hui, servantes ou patronnes, ne trouvent plus le temps pour cette besogne. C'est peut-être une mauvaise excuse. La vaillance est plus rare qu'autrefois. Mon père le dit et tous les anciens. C'est pour eux une façon de triompher des jeunes.
Oui, mais ils ont peut-être raison quand même. Une femme diligente, c'est beaucoup dans une maison. C'est tout dans la mienne. C'est comme une évée de printemps sur un pré sec. Si le désordre avait continué, mes enfants, avant longtemps, auraient été à la charité. Je dois penser à eux. Ils sont à l'abri comme des petits poulets dans un chauffe-pied. Il faut que cela dure. La vie n'est pas toute en jeunesse. J'ai 30 ans passés. C'est l'âge de raison. Si je me décidais, ce ne serait certes pas comme la première fois. J'avais 24 ans. Le monde brillait comme une chapelle illuminée. Toutes les chandelles sont éteintes. Il faut quand même suivre son chemin. On ne se chauffe pas toujours les mains à une flambée de genêt. Un peu de braise fait passer la veillée. Si je me décidais, je ferais une chose juste et bien sensée.
À Noël, Boiseriot se confessa. Il alla au curé de Saint-Ambroise, qui était connu pour mener la lutte contre les dissidents. Après les peccadilles ordinaires, il arriva bien aux maîtresses pièces. Mais par prudence, il sortit tout le lot d'un coup, très vite, sans déballer complètement. Et le prêtre ne se montra pas trop curieux. Ce n'était pas un méchant homme, ce prêtre, mais son zèle était grand, et grande sa hâte de ramener au bercail tous ces dissidents qui n'étaient, après tout, que de très belles brebis égarées. Le pénitent qui s'accusait de désirer une dissidente en mariage, car il disait bien « en mariage », ne lui paraissait point si coupable. Cela ferait peut-être une de gagnée, une que l'on baptiserait en grande pompe un dimanche du mois de Marie.
Quant à s'être un peu querellé le jour d'une batterie pour la gloire de l'Église, et quant à avoir, en cette occasion, souhaité malaise à un des médisants, c'était le fait d'un homme violent, certes, mais dont la foi était belle et exemplaire. Boiseriot sortit du confessionnal, tout à fait en règle, et, joyeux comme un communiant, il s'en retourna aux moulinettes. Justement, ce jour-là, Madeleine était allée, elle aussi, à Saint-Ambroise. Elle en avait rapporté, pour Lalie et pour Jo, 2 oranges et 1 livre de miche. En entrant, Boiseriot vit sur la table le panier encore ouvert et il eut la hardiesse de serrer Madeleine dans un coin du corridor.
« Bête, garde au moins tes sous. Quand tu auras payé à ces drôles un boisseau de pommes d'orange et un plein bissac de foisse, penses-tu qu'il fera de toi la vraie patronne aux yeux des gens ? Écoute-moi, si tu voulais... »
Mais il ne put aller plus loin car elle le poussa dehors. Mais il revint à la charge les jours suivants. Il trouvait moyen de l'accointer dans la grange, dans le quéreux, même dans la maison. Et plus d'une fois, elle se réjouit d'être assez forte pour ne rien craindre d'un pauvre gars comme lui. Un dimanche de janvier, il la rejoignit sur la route de Saint-Ambroise et il se mit à marcher à côté d'elle. La route était droite et l'on voyait beaucoup de gens qui s'en allaient à la messe ou au chapelet. Elle n'osa pas la virer hors de son chemin et elle fut obligée d'entendre des paroles abominables et des menaces. Elle céderait ou il ameuterait contre elle toute la jeunesse du pays. Et qui la défendrait maintenant que son frère était estropié ? Aussitôt qu'il n'y eut personne en vue, elle le chassa à coups de pierre. Alors, à partir de ce jour, il prépara sa vengeance. Il lui sembla que Gédéon serait un outil parfait pour cette mauvaise besogne, et il se mit à le préparer, à le fourbir, à l'affûter comme une serpe des lagueurs. Le jeune homme, comme lui-même d'ailleurs, était gagé jusqu'au 1er mars. Son marché, à lui, Boiseriot, était conclu pour une nouvelle période, mais Gédéon n'avait pas pu s'entendre encore avec le patron, et il était à croire qu'il sortirait dans quelques semaines. Il demandait 20 écus d'augmentation et Michel n'était pas disposé à lui accorder tant que cela. Gédéon n'était ni très adroit, ni surtout très docile. Il tenait bien compte des commandements qu'on lui faisait, mais jamais tout de suite, et son premier mouvement était de les prendre à rebours. De plus, sans être paresseux, il perdait du temps sur son chemin, sa jeunesse trouvant amusement partout. Boiseriot commença donc à l'échauffer contre Michel. Il s'y prit de loin pour que l'autre ne le vît pas venir. Les jours où le patron grommelait à cause d'un travail mal fait, il disait au jeune valet
« Qu'il le fasse donc, lui, il verra si c'est facile !»
Ou bien « Tu n'en as pas encore assez, moi je n'ai jamais supporté de reproches à cause de mon travail. Vous n'êtes pas content ? Bonsoir !» À ta place, c'est moi qui filerai, une fois mon temps fait. » Gédéon avait entendu bien d'autres gronderies sans garder rancune au patron, mais sentant le fouet, il jurait comme un pendu.
« Bien sûr, bon Dieu, que je filerai, et le diable m'emporte si je regrette jamais la maison. »
L'autre hochait la tête.
« C'est tout de même vrai, dame, mon pauvre gars, qu'il t'en a fait voir. »
Quand il eut bien décidé Gédéon à partir, il parla de Madeleine.
« Voici le carême qui vient, où les bêtes seront mieux nourries que nous. Change de cuisinière, va. Celle d'ici mange le lard et nous laisse les choux. »
Il faisait rire le jeune homme en parlant de cette grosse fille. Sans doute, elle avait la poitrine si lourde qu'elle avait étouffé tous ses galants.
« Tous ? Non, je dis mal. Il lui en reste encore. »
« Qui donc ?» faisait le gars en se retournant sur son outil.
« Ça, tu es trop jeune pour le savoir. »
Il ajoutait entre ses dents la mine scandalisée.
« C'est honteux, il se passe bien des choses. »
Cependant, Gédéon ne s'emballait pas si vite contre Madeleine, et il y avait à cela plus d'une raison. Quand Boiseriot osa enfin lâcher devant lui les dernières paroles, il eut une révolte.
« Non, ce n'est pas vrai, vous voulez rire. »
« On ne me l'a pas dit, je l'ai vu, tu entends bien ?» Il fallut plusieurs jours au mauvais pour le convaincre. Enfin, une après-midi vint, tout de même, où Boiseriot crut le gars fin prêt pour la besogne. Ils avaient eu ce jour-là long travail et, à cause d'un jeûne, bien maigre soupe. Par-dessus le marché, Michel avait tempêté contre Gédéon pendant le repas. Quand les deux valets furent revenus à leur chantier, devant une haie d'épines qu'il s'agissait d'abattre, le jeune, pour se soulager, prit à musiquer plus fort qu'à l'habitude. Boiseriot le laissa aller, puis il parla à son tour. Rappelant toutes les choses, les gronderies du patron, la longueur du carême, la mauvaise conduite des gens de la maison, il finit par rire. « Écoute, ça vaut un charivari. »« Un charivari ? J'en suis boudiou, si vous en êtes !» Il avait dit cela, le jeune gars, par bravade, mais l'autre reprit tout de suite. « Moi, non, ce n'est pas de mon âge. » Du coup, Gédéon, qui n'avait point l'esprit trop lent, se méfia. Boiseriot continuait à voix basse et sans lever la tête. « Moi, d'abord, je reste ici. Toi, tu t'en vas dans une dizaine de jours. Tu n'as qu'à dire ce qui se passe aux autres de ton âge. Ils viendront tous avec toi. C'est une belle occasion de s'amuser, maintenant que voilà finie votre saison de veillée. Quand j'avais 18 ans, j'ai été d'un grand charivari. C'était à Chantepie, à la porte d'un cordonnier qui avait fait le coucou. À 10 ou 12 que nous étions, nous faisions tous les soirs, autour de sa maison, un tapage du diable avec des chaudrons, des seaux, des casseroles percées. Si bien qu'il a été obligé de s'en aller du pays. Je n'ai jamais tant ri de ma vie. Tout le monde était pour nous. Et ce serait de même ici. Des choses pareilles, on ne doit pas les souffrir. Et c'est à la jeunesse de les empêcher. » Gédéon secouait la tête. « Non, non, ça ne me regarde pas. Et puis, il y a la famille. »« Quelle famille ? Celle des Clarendeau ? Elle est propre. Tu ne sais donc rien ? La plus jeune des filles qui était à la batterie l'année dernière. Tu n'en as pas entendu parler ? Elle a fait encore pis que celle d'ici, toute gamine qu'elle est. » Gédéon, qui tapait avec sa serpe sur un aubépin, s'arrêta sec. « Ça, c'est une menterie !» Mais l'autre, qui poussait au bout, pressé d'en finir, ne remarqua ni le geste ni le ton de colère. « Une menterie ! Demande-le aux gars de Saint-Ambroise qui l'ont suivi il y a eu 8 jours dimanche dans le bois de Beaufrène. Qu'est-ce que vous dites, Boiseriot ? Répétez pour voir !» Dévalant du haut de sa haine, Boiseriot ne s'arrêta point. « Oui, dans le bois de Beaufrène, et dimanche dernier encore, au même endroit, ils étaient 4 avec elle. Hé, qu'est-ce qui te prend, imbécile ?» Gédéon avait jeté sa serpe et sauté sur lui. « Mauvais bougre, je t'apprendrai à inventer des choses pareilles. Tiennette, ces 2 dimanches après le chapelet, elle est allée s'asseoir sur la route de la Grand Combe, et moi à côté d'elle, si tu veux le savoir. » Boiseriot se débattait, mais le jeune gars le bouta dans la haie, le derrière en plein dans les épines. Le maintenant d'une main, de l'autre qui était ganté de cuir très dur, il se mit à lui froisser les côtes rudement. Et il bramait avec des larmes de colère. « Tiens, tiens, voilà pour tes menteries. Ah oui, Tiennette était dans le bois de Beaufrène. Dis-le donc, sale menteur. Ah oui, le patron vit mal avec sa servante. Qu'est-ce que cela te fait ? Tiens, sale menteur. Il faut que je fasse le charivari ? Bon, Diou, je le veux bien. Ça sera sur ta peau. » Quand ils se relevèrent, Michel était derrière eux. Il disait « Eh bien, c'est fini ?» Et puis, à Boiseriot, « Viens-t'en à la maison. » Le valet eut un geste de rage, mais Michel reprit. « Marche devant moi, tout de suite !» Et la voix était telle que Boiseriot fila par crainte des coups. Quand il eut son argent et quand ses hardes furent rassemblées, il sortit du quéreux au valet et s'approcha de la maison. Voyant que Michel n'y était plus, il s'avança sur le seuil et il dit, les dents serrées, « Je m'en vais. Au revoir. Vous m'avez mordu, moi je vous navrerai. »